Le libre dans tous ses états, c'est un tout petit bout de divergence numérique que vous retrouvez tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Aujourd'hui dans Divergence numérique, nous recevons Michel Aslagnan qui présidait l'ouverture officielle des 10 ans de l'Adulacte, vice-président de Montpellier Agglomération, délégué de la commission Innovation. Il avait souligné l'importance de ces journées et le fait qu'au-delà d'une simple adhésion à une association, c'était la philosophie qui les intéressait et les rapprochait. On est avec vous, d'abord bonjour Michel Aslagnan, merci d'être venu dans les studios de Divergence.
Mais je vous en prie, c'est toujours un plaisir.
Alors donc, je le disais, vous êtes vice-président de l'AGLO, président délégué de la commission Innovation, membre de la commission Contentieux Affaires Juridiques Assurance Archives, et là ça rejoint le sujet de l'open data et moyens internes, membre de la commission Montpellier Méditerranée Technopole, développement économique et emploi, puisque là aussi dans l'open data, eh bien, il y a pas mal d'opportunités, on le verra. Ce mardi 4 décembre 2012 se tenait le deuxième barcamp Mon Open Data, co-organisé avec Novae LR. Tout d'abord, la première question, quelle est la démarche propre à l'agglomération en matière d'open data?
Alors, aucune démarche propre, pas de spécificité. La règle aujourd'hui au niveau de toutes les collectivités, c'est d'ouvrir les données au public. Donc nous avons décidé, en même temps que certaines autres, Rennes, Bordeaux, etc., de rendre une partie de nos données publiques, de les rendre publiques justement. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas accessible au commun des mortels, puisque c'est souvent sous des tableaux Excel ou dans des formats absolument incompréhensibles pour le commun des mortels, mais pour toute personne qui pourrait s'occuper et s'intéresser de récupérer ces données pour y rajouter un peu d'intelligence et en faire des applications, on en reparlera un peu plus tard, c'est une véritable mine d'or. Mmh. Et c'est surtout une véritable philosophie.
Mmh. Pascal ?
Oui, alors quelques données qui sont... déjà, les données qui sont mises à disposition sont déjà des données qui sont dans votre champ de compétences au niveau de l'agglomération. Donc ça concerne par exemple, là j'ai une petite liste, l'horaire des piscines, les maisons d'agglo, des défibrillateurs, etc., bâtiments Montpellier Agglomération. C'est tout ce que vous pouvez mettre à disposition, tout ce que vous gérez finalement.
Oui, c'est ça. Bien entendu, on reste dans notre champ de compétences. On parlera peut-être de la ville de Montpellier qui reste aussi dans son champ de compétences. Nous avons décidé donc de mettre les données qui nous appartiennent dans le champ public. Donc la donnée la plus évidente, celle auquel tout le monde pense, c'est les données de transport. C'est-à-dire non seulement les lignes, mais éventuellement pour dans quelques temps les horaires auxquels les trams, les bus passent à tel et tel, tel et tel arrêt. Mais il y a ça, il y a aussi toutes les données de périmètre de l'agglomération, il y a tout ce qui concerne, tout ce qui est rentré dans le système d'information géographique, le SIG, il y a des données qui concernent aussi la culture, les horaires d'ouverture, il y a des données qui concernent l'administration, etc., etc. Tout ce qui fait que l'espace public rend service à ses citoyens.
Quand il y a un exploitant, par exemple, sur les transports, il est facile de libérer finalement les données?
Bonne question. Alors, d'abord, nous sommes au début d'une aventure. Ça, c'est la première chose. Donc, Paris ne s'est pas fait en un jour. Je ne dirais pas que dans l'administration, on avait le même sentiment que dans l'armée française, c'est-à-dire qu'il était la grande muette. Mais enfin, on a été très, très longtemps sous le signe de le pouvoir, c'est l'information. Voilà, ça, c'est quand on détenait l'information, on détenait du pouvoir. C'est un sentiment qui a évolué depuis les 15-20 dernières années. Aujourd'hui, tout le monde sait à peu près que le pouvoir, c'est le partage de l'information. Et de toute façon, si vous ne le savez pas aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., vous êtes à des années-lumière derrière. Donc, tout le monde est à peu près persuadé, mais c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et il faut que ce genre de considération descende au niveau des services. Donc, que ce soit dans les services de l'agglomération ou dans les services des partenaires comme la TAM, tout n'est pas toujours aussi simple. Parce que on a tendance à dire, si on donne des horaires et qu'on s'aperçoit que, par exemple, pour le transport, le tramway arrive en retard, etc., il y a des gens qui vont l'exploiter. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça la transparence. Et c'est le côté obscur de la force. Mais le côté clair de la force, c'est que justement, on va pouvoir faire des applications, par exemple, qui vont permettre, quand le tramway est en retard, justement de dire, voilà la solution de remplacement que vous avez. Mais pour ce faire, il faut bénéficier des données.
Mmh. Alors, l'open data, c'est quelque chose qui a le vent en poupe depuis quelque temps déjà. On parle souvent de nous, sur Divergence FM, on est un peu spécialisé logiciel libre, etc. Et on a bien senti que ce soit du côté de la ville, ça va venir aussi du côté de la région. Bref, toutes les collectivités sont appelées à libérer certaines données, évidemment peut-être pas toutes, et peut-être pas toutes pour tout le monde, ça mérite peut-être d'être détaillé. Mais est-ce qu'il y a une synergie entre les différentes collectivités qui entrent dans l'open data? Est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce qu'il y a une réelle complémentarité entre les démarches des différentes collectivités?
Vous avez l'art de poser les bonnes questions. Alors d'abord, n'oublions pas que c'est une loi, c'est une obligation. Hein. Donc nous avons, toutes les collectivités ont l'obligation de libérer leurs données. Elles le font à leur rythme et elles le font au fur et à mesure de ce que ça a comme influence dans les services. Encore une fois, il n'y a pas que... tout à l'heure, je mettais un petit point sur la volonté des gens de le faire ou la compréhension des gens pour le faire. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la technologie qui doit évoluer. Quand vous avez un tableau Excel qui doit être remis à jour toutes les 5, toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, il faut que aussi la technique suive. Donc c'est une obligation. Donc la mairie de Montpellier, par exemple, puisque vous le citez, est rentrée avec Montpellier Territoire Numérique bien avant l'agglomération. Je dirais que, comme souvent, les débats entre les différents élus et entre les différentes instances politiques sont un peu compliqués. Ce que je peux garantir, puisqu'on travaille beaucoup avec mon collègue Mickaël Delafosse, qui est à la mairie en charge de ça, on s'est vu encore d'ailleurs tout à l'heure, on travaille beaucoup en collaboration là-dessus. En tout cas, ce que nous faisons, c'est que nous mettons tout en place pour que les systèmes soient compatibles. C'est-à-dire que le jour où la volonté politique sera là, il suffira d'appuyer sur un bouton pour tout raccorder. Et ça, c'est essentiel. Et c'est le discours que je tiens aussi à l'État, qui pose aussi la même question en leur disant, ne vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, tout ça se réglera. Et ce qui sera essentiel, c'est de démontrer que l'arbre, qui est le platane qui est référencé par la mairie de Montpellier, ben celui qui est référencé par la commune de Castelnau, je ne sais pas s'il y a des platanes à Castelnau, finalement, le platane ou l'utilisateur qui aura besoin de savoir où est planté le platane, il n'en a rien à faire de savoir qu'il soit à Castelnau, que ce soit à Montpellier. Il a besoin d'une continuité territoriale. En tout cas, nous mettons tout en place pour le faire. Concernant le conseil régional, je n'en ai pas entendu parler.
Voilà, c'est peut-être à venir.
À venir, oui. Ils y réfléchissent. C'est une obligation, comme vous le disiez. Donc forcément, déjà, qu'est-ce qu'on libère? Qu'est-ce qu'on ne libère pas? De quelle manière? Et toutes ces questions qui sont évidemment posées.
Bien entendu, il y a une règle absolue, c'est qu'on ne libère pas des données personnelles. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer qu'un jour, par exemple, l'hôpital mettra en données publiques le dossier d'un patient. C'est absolument inimaginable. On ne peut pas libérer les dossiers fiscaux des gens. On ne libère que des données qui concernent l'espace public et la société avec un grand S. Donc ça, c'est une base absolue d'éthique. Après, nous avons mis en place à l'agglomération un comité d'éthique. Est-ce que tout est bon à libérer tout de suite? Tout devra être libéré. Mais est-ce que tout est bon à libérer tout de suite? Ça participe d'un état général. C'est-à-dire qu'avec Mickaël Delafosse, ça fait longtemps qu'on milite pour que la totalité des débats, que ce soit au conseil municipal ou au conseil de l'agglo, soit sur le numérique. C'est un espace public. Vous pouvez y venir et y assister. Donc, il n'y a pas de raison. Il faudrait même que ce soit filmé pour que les citoyens puissent regarder les débats. C'est très intéressant, le débat. Alors, c'est peut-être un peu long. Hier, on a eu, conseil municipal de Montpellier, on a eu 7 heures de débat. C'est un peu long. Mais par contre, si c'est numérisé, vous pouvez aller voir le débat qui vous intéresse sur le logement ou sur les subventions de vos associations, etc. Donc, il faudra qu'on arrive à tout mettre sur le domaine public. Encore une fois, c'est long. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour. Ce qui est certain, c'est que la loi nous l'impose. Et nous, les jeunes élus qui s'intéressons un peu au numérique, on est totalement convaincus de ça et on travaille la main dans la main.
La route est longue, mais la voie est libre, célèbre doctrine framasoftienne. Je vous propose de revenir sur un petit extrait du discours d'ouverture des 10 ans de la DULACTE.
Alors, au-delà de ce que peut être une simple adhésion à une association, ce qui nous intéresse particulièrement dans la DULACTE et ce qui nous rapproche, c'est la philosophie. La philosophie des logiciels libres pour tous et par tous. Quand on est une agglomération qui prône l'audace comme baseline et l'innovation, qui a même donc décidé d'avoir un vice-président délégué à l'innovation, On ne peut pas rester passer à côté de ce genre de choses. On ne peut pas passer à côté de ce qu'on appelle la révolution numérique, mais la révolution numérique bien comprise, bien sentie, avec une vraie philosophie derrière de partage et d'ouverture. Alors, ce n'est pas simple ce que je vous dis, parce que les administrations ne sont pas enclines à partager depuis des années et des années. Alors, même si on n'est pas dans la grande muette, c'est pas si simple.
Voilà, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que les collectivités, c'est des centaines, des milliers d'agents. Donc il y a aussi peut-être une évolution des mentalités à pousser, à encourager, à mettre en place. Est-ce que c'est vu la masse d'agents qu'il y a dans les collectivités, est-ce que c'est plus difficile que dans le privé? Parce que dans le privé aussi, finalement, il y a une espèce de révolution des mentalités, que ce soit vis-à-vis du logiciel libre ou de l'open data, de la part de différentes entreprises qui s'y mettent, même parfois un peu bon gré mal gré. Je pense notamment à Microsoft qui est obligé aujourd'hui de faire de l'open source, même si c'était pas du tout leur modèle économique au départ. Donc ce changement de mentalité, est-ce que ça aussi ça constitue un écueil finalement?
Oui, enfin, je n'irai pas sur le terrain de ce que c'est plus facile sur le public que dans le privé. Ce qui est certain, c'est que dans le public, ça fait très longtemps, très très longtemps, que nous utilisons et que nous sommes des promoteurs du logiciel libre. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Après, au niveau de tous les agents, je crois que les choses se feront petit à petit par l'inversion de la pyramide des âges. C'est une des possibilités. Une autre possibilité, ça sera de rendre cohérent et conscient ce qu'on peut faire avec un open data. Aujourd'hui, ce dont on parle, c'est quelque chose d'un peu abstrait, quoi. Le jour où vous verrez une application qui sera produite par une entreprise de Montpellier qui aura produit une petite application sur iPhone qui permettra à un handicapé qui met un point A à un point B d'avoir un trajet qui sera compatible avec son handicap, avec la hauteur des trottoirs, avec la taille des portes, etc. Ce jour-là, on entrera dans vraiment 100% de concret. Et la plupart des gens s'apercevront que, en croisant des données qui sont absolument abscondes pour la plupart des gens, on arrive à faire des applications qui vont bénéficier au commun des citoyens, c'est-à-dire que tout le monde pourra utiliser un développement de ces data pour son bien-être personnel. Mmh. Et ça, c'est formidable. On est en train, à l'agglomération de Montpellier, ça passera bientôt à la prochaine délibération, on est en train de lancer un gigantesque contrat de recherche et développement avec IBM. Et l'un de ces sur le quartier Écocité, l'un de ces objectifs, c'est justement d'utiliser une partie de ces données et de les croiser, c'est-à-dire la donnée transport, la donnée inondation, la donnée risque, la donnée eau, pour pouvoir faire des applications qui vont permettre à des gens de recevoir, quand ils seront sur la zone, sur leur téléphone, de façon automatique, un avertissement en leur disant « Attention, il y a un car qui est en panne dans 3 km, vous risquez de tomber dans un bouchon, prenez telle déviation. » C'est ça aussi l'open data. C'est ça. Mais ça, là, on va rentrer bientôt avec l'agglomération et IBM dans du concret. Et on va mettre beaucoup d'argent dans ce truc-là parce que je pense que c'est la vraie intrusion du numérique dans la vie de tous les jours.
Alors, l'open data, c'est aussi des données qui sont libérées, mais c'est aussi des données qui peuvent être collectées et abondées par tout un chacun. Alors, vous parliez à l'instant de cartographie et d'accessibilité. Montpellier Libre, depuis je crois quelques trimestres déjà, organise des cartoparties dont l'objet est justement d'aller compter le nombre de bateaux, c'est-à-dire les endroits sur les trottoirs qui s'affaissent pour qu'on puisse y accéder en poussette ou en fauteuil roulant. Là aussi, il y a une révolution numérique en ce sens où auparavant c'était un petit peu l'apanage des cartographes et de l'IGN que de faire les cartes, que d'en vendre le droit d'usage plusieurs fois aux collectivités. François Elie a souvent dit l'argent public ne doit payer qu'une fois. Donc là aussi on est en plein dedans.
Oui, on est en plein dedans. D'ailleurs, quand vous allez dans des cartes aux parties, on n'est pas surpris parce qu'on s'attend à ça, mais on voit bien l'âge des gens qui participent à ça. On voit bien qu'on est sur une nouvelle génération. Bientôt, vous aurez, sans qu'il y ait l'idée de délation derrière, vous aurez des gens qui appelleront, grâce au système qu'on est en train de mettre en place, qui verront une borne qui fuit, une borne d'eau, qui appelleront pour dire il y a une borne qui fuit là, ou quand ils verront un paquet de poubelles, diront là, les gens ne sont pas passés les ramasser, etc. Sans que ce soit imaginé pour la délation. Ce n'est qu'une donnée. Qu'on incrémente les données publiques en en mettant une supplémentaire qui va normalement servir à résoudre le problème ou en tout cas à complémenter le problème pour que l'application qui est en charge de toutes ces données trouve une solution plus simple. Mmh. Donc effectivement, vous avez raison, c'est une vraie révolution, mais qui est, comment dire, le train est en marche, quoi. C'est le train est en marche. On est aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde du partage, dans le monde de la collaboration. Et tout ce qu'on doit faire aujourd'hui au sein de l'agglomération et d'ailleurs au sein de la mairie, c'est des plateformes collaboratives.
Mmh. Oui. En termes de retour, puisque vous mettez à disposition des jeux de données, est-ce que vous avez, vous savez comment elles sont utilisées et quelles sont les applications qui en découlent ?
Alors, pour l'instant, on est au début. Hein, la mairie de Montpellier a lancé un concours pour voir un peu quelques applications pour utiliser les données. On a eu 5 ou 6 lauréats, qu'on a des associations, qu'on a subventionnées. Au niveau de la partie plus économique, pour l'instant, nos données sont libérées depuis trop peu de temps pour qu'on ait encore des retours. Ce qui est certain, c'est qu'on est très vigilant. La politique que l'on a à l'agglomération, c'est de dire si des données publiques servent à enrichir un phénomène mondial, on est sur un phénomène mondial, les données sont publiques même pour les Chinois, elles servent à enrichir une société privée, il est normal que l'on récupère un success fee pour réutiliser et réentretenir ces données publiques. Ça, c'est notre conception à l'agglomération. Bien entendu, quand c'est une association, quand ces données sont à disposition de tout le monde, quand c'est une association, il n'y aura pas de ce genre de choses. Mais nous allons proposer un contrat d'exploitation quand on rentrera vraiment dans les choses un peu plus opérationnelles et un peu plus financières.
Alors je le disais tout à l'heure, ce mardi 4 décembre se tenait le deuxième Barcamp Monde Open Data où c'était essentiellement un rendez-vous d'entreprise. Les opportunités d'affaires liées à l'open data sont nombreuses. Est-ce que l'agglomération joue un rôle de régulateur pour filtrer les entreprises, on va dire, opportunistes? Est-ce que ça doit, dans l'absolu, être son rôle?
Non, pas du tout. C'est justement, c'est bien ça. Il ne faut surtout pas aller dans ce domaine-là. Nous mettons des données à disposition du public. Le public, quel qu'il soit, doit les utiliser. Et nous, la seule régulation que nous faisons, c'est celle que je viens de vous dire. C'est-à-dire que ce sont des données publiques. Si une entreprise privée gagne beaucoup, beaucoup d'argent, ces données coûtent cher à maintenir. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Hein. Ces données coûtent cher à produire. Donc, nous considérons que, dans certains cas, il est normal que l'on ait une rétribution de l'utilisation des données tout à fait particulières, tout à fait pointues. Mais C'est un monde sans régulation pour l'instant. Et je pense que c'est de là que naîtra la créativité et l'intelligence. Moi, aujourd'hui, je suis certain, j'ai beaucoup bossé sur le sujet. J'ai regardé ce qui se faisait aux États-Unis, j'ai regardé ce qui se faisait à l'agglomération de Rennes, qui est assez en avance. On est encore, à mon avis, à des années-lumière de ce que la créativité des gens va réussir à produire avec des données. On n'en a même pas l'imagination. Hein. Moi, je discutais il n'y a pas longtemps avec les gens qui veulent implanter un Fab Lab sur Montpellier, qui me disaient l'un des avantages du Fab Lab, c'est de redonner la créativité au niveau du citoyen, que tout le monde a perdu. C'est-à-dire que maintenant, quand on a un besoin, on achète. On ne crée plus, on n'a plus d'inventivité. Eh bien, je pense que la libération enfin l'open data des données, ça sera un peu similaire à ce qu'ils vont faire avec le Fab Lab et ce que démontre le Fab Lab de par le monde.
Michel Aslagnan, on rappelle que vous êtes vice-président de l'agglomération de Montpellier et notamment président délégué de la commission innovation. Un dernier mot ?
Oui, un dernier mot, juste pour les auditeurs qui voudraient aller se faire une idée. Les data de Montpellier Agglomération, vous les trouvez à data.montpellier-aglo.com et là vous aurez toutes les données, toutes les data qui sont libérées à l'heure actuelle.
Merci beaucoup d'être venu dans le studio de Divergence.
Je vous en prie.
Au revoir. Divergence numérique, l'actualité du logiciel libre sur Divergence est tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Terra States.